La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info, l'émission débat consacrée à l'actualité nationale que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine. Aujourd'hui, dans le grand studio de Radio Présence, je salue le retour d'Annie Thomas, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC, secrétaire générale du site Les Clés du Social. Je salue également Franck Bouteau, professeur de médecine, secrétaire départemental du parti Debout la France pour la Haute-Garonne. Et je salue enfin Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du PS 31, membre du Conseil national du Parti Socialiste, soutien du Nouveau Front Populaire. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de la mêlée de l'info. Alors je précise qu'Annie Thomas n'est pas encore arrivée, elle est prise dans les embouteillages, mais elle va arriver d'ici quelques minutes normalement. Cette émission, comme je l'ai rappelé, est consacrée à l'actualité nationale, mais il n'est pas rare que l'actualité internationale ait des conséquences en France. Vous voyez de quoi je veux parler. Comme il est de coutume, la campagne puis l'élection présidentielle américaine ont été particulièrement suivies par les médias français. On sait à quel point France et États-Unis ont des destins liés aux yeux de beaucoup de nos concitoyens. Donald Trump est donc devenu le 47e président américain. Sa très confortable victoire, alors que la plupart des observateurs annonçaient un scrutin serré, constituant la grande surprise de cette élection, sans chercher à analyser le résultat en lui-même et ses causes propres à la société américaine, quelles conséquences pourrait avoir, selon vous, le retour de Trump à la Maison-Blanche pour les relations franco-américaines? On sait qu'elle devrait avoir, sur les plans commercial et économique, très probablement aussi en termes de politique étrangère, et même peut-être, par ricochet, sur notre scène politique nationale. Annie Thomas vient juste d'arriver, ça tombe très bien. Bonsoir Annie, merci d'être arrivée jusqu'à nous malgré tout. Je voulais vous donner la parole en premier, parce que les relations franco-américaines, vous les vivez au quotidien. Puisque ce n'est pas un secret, je ne révèle pas un secret, vous êtes mariée avec un Américain. Alors, qu'est-ce que vous inspire, en tout cas, vu du côté français, l'élection de Donald Trump, quelles conséquences vous imaginez à son retour à la Maison-Blanche?
Eh bien, d'abord, vous avez raison, bonsoir à tous, merci de m'avoir attendu. C'est très difficile pour des Américains actuellement de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'en fait, ils vivent un pays extrêmement divisé, avec y compris des frontières au sein des familles. C'est ce qui se passe. Mon époux est américain. Certes, deux de ses frères votent démocrate, sa sœur vote républicain. Et avec des débats dont je n'avais jamais connu d'intensité semblable. Et c'est vrai, un pays vraiment divisé. On se reproche beaucoup de choses. Peut-être certaines n'arriveront pas, mais il y a déjà à la fois ce qui s'est passé précédemment. Je pense que le traumatisme du 6 janvier reste très fort chez les démocrates, et le fait que cet acte, qui est un acte antidémocratique, n'ait pas eu de conséquences pour Donald Trump et le parti des Républicains, entame chez certains cette croyance très forte, cette ligne très forte de la démocratie. C'est-à-dire, pour les Américains, les États-Unis incarnent la démocratie. Bien sûr, il y a d'autres démocraties de par le monde, et nous, Européens, on s'enorgueillit d'être le berceau de la démocratie avec la Grèce antique, mais il y a très profond chez eux cette affaire-là. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer aux États-Unis, mais pour ce qui est de la France, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il y aura certainement des conséquences pour la France et pour l'Union européenne. On a déjà un certain nombre d'indications qui ont été données pendant la campagne, des mots très forts qui ont été dits concernant les questions économiques, les questions commerciales, la question de la défense, la place des États-Unis dans le financement de la défense européenne. Donc effectivement, il est certain qu'il va y avoir des conséquences. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi dire à nos auditeurs que sur les questions économiques et de croissance, ce n'est pas Trump qui va tout faire et tout va bouleverser dès à présent. Parce que l'administration Biden avait déjà elle-même pris un certain nombre de décisions après la crise du Covid d'investissements publics et d'investissements privés qui ont fait en sorte de booster l'économie américaine, un peu au détriment du reste du monde. Hein. Il n'y a pas que la Chine qui a été touchée, l'Europe a été touchée. Et après le Covid, la croissance aux États-Unis est 3 fois plus importante que celle de l'Europe. C'est-à-dire on a une Europe léthargique et les États-Unis, par des politiques choisies, voulues, des financements, y compris dans la démarche de changement climatique. Donc on va voir si Trump va changer cela, parce que il s'était très bien engagé hein, dans cet espace-là. Voilà, donc, Trump ne va pas totalement changer les questions économiques. Déjà, avec Biden, il y avait une inflexion très forte. Mais nous devons être très vigilants. Je disais tout à l'heure les conséquences par rapport au changement climatique. On connaît la place des climato-sceptiques dans l'entourage de Trump. Il y a un gros problème aussi, bien sûr, sur la politique étrangère et sur la guerre en Ukraine. On est dans l'interrogation absolue d'un homme qui dit qu'en 24 heures, il va régler le problème ukrainien. On craint et on doute que ce soit au bénéfice des Ukrainiens. On suborde que ça serait peut-être des décisions qui seraient plus favorables à Poutine. Donc, que va faire l'Europe par rapport à ça? De se trouver à ses frontières avec une puissance agressive. Parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est menacée. Il y a la Moldavie, il y a la Géorgie. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans ces pays-là. D'ailleurs, ils connaissent des élections en ce moment qui sont un peu troublantes.
Les pays baltes aussi sont assez inquiets
voilà,
pour des
absolument.
Raisons historiques.
Oui, oui, oui. La défense, la ligne balte est très importante. On a vu que tous les pays nordiques s'étaient engagés dans l'OTAN. Là aussi, ce n'est pas que Trump qui a fait cela, qui fera cela, qui fera que les pays européens s'engagent vers plus de défense commune et dans l'OTAN et assument ses responsabilités vis-à-vis d'une politique de défense européenne. Voilà dans un premier temps.
Oui, oui, on viendra après peut-être dans le détail sur certains points que vous avez soulevés. Je passe la parole maintenant à Franck Bouteau. Alors vous allez peut-être avoir une vision un peu différente de celle d'Annie Thomas sur le résultat des élections américaines et sur les conséquences qu'on peut en tirer de notre côté en France.
Bien, bonjour, bonjour Eric Dupriz. Bon, merci encore de m'avoir invité et merci à mes interlocuteurs avec lesquels je vais pouvoir débattre. Effectivement, je ne vais pas pouvoir faire état d'un conjoint ou d'une conjointe américaine, donc là j'ai un petit handicap, mais par contre, je pense que j'ai un message à faire passer qui est bien différent de celui que je viens d'entendre. En réalité, il y a un premier constat, c'est qu'en France, dans tous les médias, on a présenté Mme Kamala Harris comme étant quasiment certaine de gagner, en tous les cas la meilleure candidate possible. Et quand j'ai dit les médias, il s'agit bien entendu des médias mainstream, des chaînes de télévision et de tous les journaux subventionnés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement le résultat est complètement contraire à ce que nous avait averti, à ce que nous avaient annoncé nos propres médias. Mais pour les gens comme moi qui sont assez souvent sur les réseaux sociaux et qui ont accès à des sites de réinformation, eh bien, je savais que M. Trump allait gagner, parce que c'était annoncé déjà depuis très longtemps. Et donc, la première question que je pose, c'est pourquoi les médias français ont menti aux Français alors qu'ils savaient très bien, ils savaient très bien que Trump allait gagner. Ça, c'est une première question qui, en fait, renvoie sur quelque chose qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans le deuxième débat, c'est-à-dire la liberté de la presse, la liberté d'expression en France, qui, je vous le rappelle, constitue le premier amendement de la Constitution américaine. Et de ce côté-là, j'ai entendu que effectivement les pères de la démocratie étaient en Grèce. Je pense que la démocratie moderne, elle est née aux États-Unis et non pas en Grèce. Et on ferait bien de s'inspirer de ce premier amendement. Alors après, les conséquences pour la France. Je dirais que ce soit Biden ou Trump, c'est America first. On le sait. Et de toute façon, il n'y a rien à attendre pour nous de positif, d'un changement de gouvernement aux États-Unis dans la mesure où il y aura forcément une attitude agressive. Ils sont toujours en guerre, les Américains, ils sont toujours en guerre au niveau militaire, ils sont toujours en guerre au niveau économique, et ça, il faut qu'on comprenne bien que la guerre, pour eux, c'est une façon d'étendre leur pouvoir. La différence, peut-être, avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est que Trump, il est un peu partisan de la vision des BRICS, c'est-à-dire qu'il est partisan d'un monde multipolaire. Alors que jusqu'à présent, avec les démocrates, avec Biden, c'était nous, on est les meilleurs, on sait ce qu'il faut pour le monde entier, on est des mondialistes, on va vous remontrer que c'est nous qui avons raison et on a tous les moyens de le faire. Là, je pense qu'avec Trump, on aura peut-être l'ouverture à des discussions qui soient plus transnationales, c'est-à-dire qui soient plus entre nations et non pas des visions mondialistes comme on a eu jusqu'à présent avec finalement le souhait de ces Américains d'être les maîtres du monde parce qu'ils sont tellement persuadés qu'ils détiennent la vérité, qu'ils sont prêts à tout faire pour l'imposer au monde entier. Je pense qu'avec Trump, il y aura des discussions très âpres, mais je dirais différenciées selon les États. Bien sûr, au niveau économique, on n'a rien à attendre de positif, mais moi, j'ai regardé les échanges avec les États-Unis. Les importations, 30 milliards d'euros, les exportations, 32 milliards d'euros. Autrement dit, on n'a pas grand-chose ni à gagner ni à perdre d'une guerre économique, puisque dans la mesure où il va monter, bien sûr, très certainement, les taxes vis-à-vis des importations les françaises, on pourra très bien faire pareil de notre côté, et au final, ça sera à peu près, équilibré. Je pense que ce qui est le plus important pour nous, finalement, c'est pas ça. C'est le message qu'on a reçu de ces élections. Le message, c'est quoi? C'est que le peuple est capable de décider quelque chose contre les médias mainstream, et en particulier aux États-Unis, tous les médias, comme encore une fois les journaux classiques dont on parle toujours en France, les Washington Post et New York Herald Tribune, qui sont des journaux qui ont toujours été démocrates, et c'est les seuls journaux dont on parle en France, eh bien non, là-bas, il y a eu la possibilité pour le peuple de s'exprimer. Et je dirais, s'il y a eu la possibilité pour le peuple de s'exprimer, c'est en grande partie parce qu'il y a une liberté d'Internet, et notamment avec la prise de position d'Elon Musk, qui a permis à M. Trump de s'exprimer, alors que je vous rappelle que Facebook l'avait tout simplement banni de ses chaînes. Voilà. Donc je pense que c'est un message d'espoir pour la France, parce que ça veut dire que le peuple français peut raisonner lui-même en s'abstenant de la propagande d'État et la propagande, de l'État profond.
Voilà, donc après ces deux premières interventions qui sont pour le moins antagonistes, Mathieu Sauce...
Alors c'est pas antagoniste, c'est qu'il y a la réalité d'un côté et il y a la fiction de l'autre.
Ça c'est votre
donc,
vision, justement.
Ça, c'est même pas ma vision, je vais essayer de rétablir un petit peu quelques vérités. La problématique de l'élection de Trump, c'est que pour avoir une démocratie forte, en tout cas la démocratie telle que nous l'entendons, la française, parce que quand même la démocratie, elle est portée par nous, hein, la Révolution française, la construction des États-Unis, avec les peuples qui migrent aux États-Unis, qui sont des peuples européens à la base, en 1789, etc., 1789, on amène, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est autant vénéré aux États-Unis, notamment à New York ou à Washington, parce qu'on a amené le berceau de la démocratie et on leur a transmis un petit peu les pouvoirs démocratiques. Dans cette démocratie, on y a un truc qui est extraordinaire, qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Le législatif, le judiciaire, l'exécutif et le médiatique. Or, Trump, actuellement, a réussi à la fois à solder le judiciaire, parce que il n'a pas été jusqu'au bout des condamnations, avec ses recours et son argent, il a pu solder ce pouvoir-là judiciaire. Le législatif, bon, ça... c'est pour lui une victoire, et c'est aussi la conception américaine qui est allée trop loin, à mon avis, dans cette possibilité de voter, puisque vous votez même pour les gouverneurs et pour ceux qui rendent justice au niveau local. Donc là, c'est une difficulté. Et ensuite, l'exécutif, eh ben, il aura aussi l'exécutif. Et le médiatique, j'en reviens là. Et c'est là où je m'inscris en faux par rapport à votre intervention. C'est totalement faux que de dire que tous les médias étaient contre Trump. C'est totalement faux. Des antennes d'heures consacrées par Fox News, une des chaînes les plus regardées aux États-Unis, étaient pro-Trump. Elon Musk a truqué, a fait des fake news par l'intermédiaire de X. C'est reconnu. Il a balancé des centaines de milliers de vidéos avec des vues vues des millions de fois, avec des informations qui étaient totalement fausses. Il s'est servi de l'intelligence artificielle pour détrôner même des propos de chanteuses Taylor Swift en l'occurrence, qui s'est trouvée à son insu soutien de Trump et qui a rectifié le tir en soutenant après Kamala Harris, mais le mal était déjà fait, et il a rompu tout ce qui est il a fait émerger des fake news partout dans la population qui s'est répété et qui a fait une sorte de vague qui l'a amené au pouvoir. C'est bien joué parce qu'il a compris avant tout le monde, et à l'instar de ce qui se passe en France avec l'extrême droite qui comprend qu'il faut aussi avoir quelques médias très amis et quelques milliardaires amis tels Bolloré en France pour essayer de convaincre la grande masse de la population. C'est un grand usurpateur, Trump. Il devrait être en prison dans n'importe quelle démocratie occidentale. Il serait en prison. C'est quand même quelqu'un qui a violé, qui a fait envahir par ses foules en désaccord, on parlait du 6 janvier, en désaccord, il a quand même rompu complètement le pacte démocratique aux États-Unis en envoyant ses foules. Enfin bon, on est dans une impasse totale et je comprends le peuple américain, je comprends les démocrates qui se retrouvent face à quelque chose qui était inimaginable, c'est-à-dire la victoire de Trump après tout ce qu'il a eu fait en amont, et il aurait même pas dû pouvoir être éligible cette fois-ci. En l'occurrence, il l'a été. Écoutez, c'était tout et n'importe quoi Trump. Moi, je reviens simplement sur ce qui risque de peser sur la France. Quand vous dites non, mais il n'y a pas de souci pour la France. On est à Toulouse ici, berceau d'Airbus. Je peux vous dire que les Airbusiens, les grands décideurs d'Airbus, ils s'inquiètent fortement. Parce que quand vous avez Boeing qui va mal, vous allez voir un petit peu l'importation du côté d'Airbus et les difficultés futures et le protectionnisme américain, tel qu'il s'entend. Quand il y aura une taxation aussi haute que Airbus ne pourra pas être compétitif aux États-Unis, on en reparlera des méfaits éventuellement sur l'emploi en France. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle le destin de la planète, la bifurcation écologique qui devrait s'imposer à travers le monde. Et ben ce truc-là, Trump, il a dit qu'il n'existe pas, qu'il s'en foutait et qu'il passait l'énergie fossile plein pot. Donc il y aura quand même des méfaits sur nos poumons et sur notre santé en tant que citoyen du monde. Ensuite, la taxation des produits importés. Alors certes, je vous ai cité Airbus, mais pensons à tous nos produits de marque assez luxueuses françaises qui font la renommée de la France à travers le monde. Je pense que ce soir, Arnaud, il doit un petit peu pleurer et s'interroger sur ce qui va arriver à ces produits aux États-Unis. Et je suis un petit peu moins d'accord avec vous sur le fait que nous serons en capacité d'imposer. Parce que malheureusement, quand on importe un produit dans la zone européenne, les accords européens font que ça soit difficile d'imposer au même niveau que l'importation américaine. J'avais un débat ici il y a quelques temps avec Eric Cottel qui avait démontré que l'industrialisation des produits français, la réindustrialisation des produits français passait aussi avec une taxation un peu plus importante des produits importés. Enfin, je reprends les autres aspects de cette résolution soi-disant du conflit ukrainien-russien en 24 heures, ça j'attends fortement de voir. Moi, ce que je constate, c'est que par essence, j'ai plutôt l'impression qu'il ira du côté russe, et tout comme il a réussi à pervertir un petit peu ou à recanaliser un vote qu'il n'aurait pas dû avoir, celui des immigrés ou des latinos notamment, après avoir construit un mur face au Mexique. Je trouve que les gens ont quand même la mémoire courte. Ça m'inquiète en France, parce que c'est toujours la même possibilité de voir en fait une anticipation dans quelques années en France de cette mémoire courte des gens. Mais il faut faire très attention à ce que l'on dit et toujours être dans le sens de la vérité, même si la politique, c'est un schéma de vérité contraire.
Alors, oui, Annie Thomas, je sens que vous avez envie d'intervenir. J'aurais quand même qu'on revienne sur un aspect, moi, qui me semble fondamental, qui a été déjà un petit peu esquissé. C'est est-ce qu'il faut craindre un désengagement des États-Unis dans l'OTAN, ou en tout cas donc une moindre protection militaire pour l'Europe, ce qui pourrait nous obliger, nous, Français, l'Union européenne en général, à revoir notre politique de défense et les moyens qu'on lui attribue. Annie Thomas.
Oui, alors, ce débat est extrêmement important, extrêmement riche. D'abord, je voudrais, j'y viens.
Je sais bien que vous voulez réagir à d'autres sujets.
Non, c'est simplement que lorsque j'entends autour de cette table une expression qui dit « les médias mentent », tout de suite pour moi, là, c'est pas un argument, ça. Ça vraiment, nous dire ça comme ça, c'est de la rhétorique d'extrême droite la plus basse, la plus crasse possible, qui est utilisée, réutilisée, réutilisée. Donc, personne ici autour de cette table, cher monsieur, n'a aucune illusion par rapport à ce que vous dites. Nos auditeurs peuvent la voir, parce que c'est un argument anti-élitiste qui est extrêmement utilisé. Et je tiens à vous dire que franchement, Il faut quand même pas trop exagérer, n'est-ce pas?
Je vous remercie de m'avoir insulté d'extrême droite.
J'ai dit que c'était utilisé par l'extrême droite.
Dans vos groupes politiques, vous avez toujours des insultes. Tout de suite, quand ça dérape, vous dites que vous êtes d'extrême droite, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi.
À moins que l'extrême droite, pour vous, ce soit une insulte.
Pour moi, je ne suis pas d'extrême droite puisque je suis gaulliste, chère madame. Je vous rappelle que le général de Gaulle, il a été victime
de... Le général de Gaulle n'a jamais dit les médias mentent.
Mais les médias mentent, évidemment.
L'extrême droite utilise cet argument.
Enfin, c'est aberrant. Regardez tout ce qu'ils ont raconté sur le Covid.
Ils n'ont pas menti sur le Covid.
Enfin, il faut être sérieux.
Ce qui est facile à voir, c'est de reprendre tout ce qui a été dit pendant la campagne et de voir que beaucoup se sont trompés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont menti.
Absolument.
Il y a beaucoup d'experts qui se sont trompés.
Et deuxièmement, permettez-moi de rajouter que les médias aussi sont libres, que les médias ont des lignes éditoriales. Oui. Ici,
les médias, ils sont subventionnés par l'État, madame.
Cher monsieur, nous sommes ici dans un média.
À part les médias publics, les autres ne sont pas subventionnés.
Absolument. Ce média a une ligne éditoriale.
Et la Dépêche, elle n'est pas subventionnée par l'État?
Ils reçoivent une subvention, certes, mais
tous les médias reçoivent une subvention, en particulier par le biais de la Poste, pour tout ce qui est la presse écrite, vous le savez parfaitement. Donc nous savons tout cela. Ceci étant, un média a une ligne éditoriale. On est d'accord avec cette ligne ou on la combat? C'est tout. Le reste n'est pas de dire « les médias mentent », c'est de dire « cette ligne éditoriale ne me convient pas et je la combats ». Ceci, pour moi, est acceptable. Le reste ne l'est pas. J'en viens directement à la question.
Oui, parce qu'elle me semble très importante,
cette question est importante. Peut-être ça va être notre entrée par rapport à l'avenir, c'est-à-dire ce que nous devons faire derrière. Parce que ça peut être aussi le moment de l'Europe, le moment de l'Union européenne.
Mais c'est à ça que je pense.
Absolument. C'est-à-dire qu'à travers, la guerre en Ukraine a déjà changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle a amené un certain nombre de pays à augmenter leur pourcentage au niveau du budget de la défense ou à s'engager. Il y a des pays en Europe, dans l'Union européenne, qui n'avaient pas de budget de défense. Soit c'était une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, soit c'était une volonté de neutralité. Ceci a changé déjà en termes budgétaires. Ce qui a changé aussi, c'est que tous les pays scandinaves, désormais, font partie de l'OTAN, ont voulu adhérer à cette démarche collective de défense. Nous allons être confrontés avec la guerre en Ukraine, effectivement, certainement un désengagement des États-Unis. Et là, au-delà de l'affaire de l'Ukraine, nous devons, nous, assurer notre propre défense et notre propre stratégie. Nous n'avons pas à avoir peur des résultats des élections américaines. Il n'y a pas à avoir peur. Par contre, nous devons, à partir du résultat de ces élections, construire ce que nous souhaitons construire dans l'Union européenne. Je pense que c'est ça la question numéro un pour moi. Elle nécessite une forme d'unité. L'unité est quasiment là. On parle beaucoup de Viktor Orban, surtout en ce moment, ils se sont mis à Budapest. Viktor Orban, au niveau des 27, est totalement isolé. Ce n'est pas lui qui pèse, soyons clairs. De plus, la Hongrie, c'est un tout petit pays. Ne pensons pas que Trump va s'adresser à la Hongrie pour essayer de défaire l'Union européenne. Enfin, il ne sait même pas ce qu'est la Hongrie, excusez-moi de l'insulter. Je l'insulte là, hein. Je dis qu'il ne connaît même pas la Hongrie. Au-delà de ça, une forme d'unité. Une politique industrielle aussi, parce que tout ce qui est économique, il va falloir redresser un petit peu la situation. Nous avons besoin de financement commun, nous avons besoin d'une stratégie commune, en particulier sur le numérique, sur l'intelligence artificielle. Nous avons aussi besoin, par rapport à la défense, de savoir ce que nous voulons. Je ne pense pas que l'idée d'une armée européenne soit à l'ordre du jour. Sincèrement, je ne le pense pas. Par contre, des financements communs, des recherches communes en termes d'armement et des volontés d'unifier aussi toutes les armées. Il y a des pays en Europe qui ont des armées importantes. Ça me semble aussi extrêmement important. Au-delà de ça, il faut qu'on soit aussi très clair sur la question climatique. Je pense qu'il va y avoir des diktats, c'est certain qu'il va y avoir des diktats du côté américain. On va essayer d'imposer un certain nombre de choses. On sait que Trump a déjà voulu sortir de l'accord de Paris et on pense qu'il veut vouloir sortir aussi des autres accords, soyons clairs. Voilà, donc il va falloir résister, il va falloir être fort. Et c'est peut-être, je le dis, le moment historique de l'Union européenne, puisqu'on est à l'ère des empires, hein, c'est l'expression qu'utilise certains médias, l'Empire américain, l'Empire chinois, je pense peut-être l'Europe, sans vouloir être impérialiste, hein, puisque les mots ont un sens, mais constituer l'Empire démocrate et démocratique que nous avons, dont nous avons besoin, me semble être quand même une urgence. Et juste un mot, Eric, si vous voulez, peut-être je le prends par le petit bout de la lorgnette, mais vous avez certainement indiqué que j'étais ex-secrétaire national de la CFDT, dont le droit des travailleurs m'importe. Le droit des travailleurs aux États-Unis est menacé parce que Trump a toujours fait une politique avec les ultra-riches. On l'a vu dans la campagne avec Elon Musk. Ce n'est pas que de la blague, hein, que Elon Musk est en train de sauter sur l'estrade derrière Trump. On travaille vraiment avec les ultra-riches et on sait parfaitement que les droits des travailleurs ne sont pas défendus par les ultra-riches. Si quelqu'un veut le démontre, là, je lui paie des frites. Et bien sûr, nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Donc, il y a une crainte très forte. D'ailleurs, le mouvement syndical américain ne défendait absolument pas Trump et était très, très très sur la réserve. Donc il y a un risque sur cette question-là. Le syndicalisme international a déjà commencé à travailler sur ces questions. De tous côtés, il y a un certain nombre de choses qui doivent s'organiser, pas que du côté de l'économie, pas que du côté de la défense. Il y a aussi des choses à organiser du côté de la société civile, du côté des syndicats, par rapport à cette question. Ça doit amener aussi, me semble-t-il, l'Union européenne vers plus de justice sociale, vers plus d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les classes moyennes et populaires qui ont vu leur pouvoir d'achat stagner ou baisser font le choix du conservatisme à tort. C'est un choix à tort, pensant ainsi que ça allait les libérer et leur amener quelque chose.
C'est ce qui s'est passé aux
États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est quelque chose qui a été extrêmement important au-delà des communautés, des couleurs, de tout ce que vous voulez, du sexe.
De Kamala
Harris, bien évidemment,
absolument
pas, absolument pas. Ce qui a compté, c'est votre situation personnelle, votre pouvoir d'achat, votre place dans la société. C'est de ça dont il s'agit. C'est à ça qu'il faut répondre. Il faut que la France réponde à ça. Il faut que l'Union européenne réponde à ça. Sinon, évidemment, cette vague peut aussi nous emporter.
On va en parler, mais juste Franck Bouteau sur l'aspect sortie, possible sortie, baisse de l'investissement américain dans l'OTAN. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pensais qu'on parlait seulement de la politique de défense. Là, vous avez divergé sur un tas de sujets. Bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, mais ça ne vous étonnera pas. Sur la politique de défense, alors dites-moi, vous avez tenu un discours relativement belliciste, là, puisqu'il faut absolument renforcer la défense nationale. Je dis bravo. Vous avez presque un discours souverainiste, je vous félicite. Cela dit, vous vous placez dans le cadre de l'Europe. Alors l'Europe, on va faire une défense pour se défendre contre qui? Je voudrais juste que vous me répondiez à ça.
La Russie.
Ah ben voilà, le grand mot est lâché. Donc en fait, toute la politique de défense doit être dirigée contre la Russie, d'après vous, n'est-ce pas? C'est bien ce que
pas
vous dites.
Uniquement, mais la
Russie... Mais enfin, très clairement, la Russie, c'est les méchants et nous, on est les gentils.
Non, la Russie, c'est une menace actuelle pour l'Union européenne. Voilà,
en
c'est
tout. En quoi elle est menaçante pour les... Vous croyez que les Russes, ils ont envie de venir défiler sur les Champs-Élysées avec leurs chars?
Je ne sais pas, dites-moi.
Dites-moi. Non, mais c'est grotesque ce que vous dites.
Dites-moi.
Mais c'est carrément grotesque, excusez-moi.
Vous avez vu ce qui est en train de se passer en Ukraine? Ce qui est la volonté en Moldavie, la volonté en Géorgie.
Dans la Moldavie et la Géorgie, il y a des élections. Bon,
non, mais il y a des volontés de...
Non, mais
chaque
qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine?
Le scénario
terminer,
est le
plaît.
Même.
Non,
c'est-à-dire, oui, la Russie estime...
Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Vous savez comme moi que les frontières de l'Ukraine ont été dessinées n'importe comment à la chute de l'Empire soviétique. Bon, il y a quelqu'un qui a mis des frontières et qui a mis le Donbass en Ukraine. Le Donbass, c'est quoi? C'est des Russes, ils parlent russe et ils veulent être russes. Ça fait des années qu'ils le disent. Ça fait des années qu'ils demandent leur autonomie. Ça fait des années que les Ukrainiens les bombardent. Ils ont été bombardés pendant 8 ans, ils ont eu 10 000 morts, ils ont eu je ne sais pas combien de blessés, d'estropiés à vie. Et du coup, effectivement, les Russes, ils arrivent et ils envahissent le Donbass. Et l'erreur qu'ils ont faite, à mon avis, c'est de continuer. Ils auraient dû s'arrêter là. Et je suis d'accord que ça, c'est absolument pas normal. Mais je veux dire, dans ce conflit, il n'y a pas les bons et les gentils. Il n'y a que des méchants. Dans les conflits, il n'y a que des méchants. Il faut se dire ça. Et donc, les Ukrainiens, ils ne sont pas plus gentils que les Russes. Et la Russie n'est absolument pas une menace pour nous. La menace, c'est plutôt les États-Unis qui nous empêchent de faire du commerce avec la Russie. Et quand on faisait du commerce avec la Russie, c'était très profitable pour nos entreprises. Et maintenant, on ne peut plus. Et ça, c'est à cause des Américains. Américains. Et qui est-ce qui a fait péter le Nord Stream? C'est bien les Américains. Et pour mettre l'Allemagne à genoux. Enfin, soyons sérieux. Non, il faut connaître nos ennemis, madame. Nos ennemis, c'est pas les Russes. Je suis désolé de vous dire ça.
Oui, alors, si vous évoquez le général de Gaulle tout à l'heure, qui lui avait dit en son temps qu'un jour vous verrez les Américains se retirant de l'OTAN, si ça devait arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la France doit faire? Est-ce qu'il faut absolument monter notre budget de la défense, alors, reconstruire une armée, la réarmer?
C'est le général de Gaulle qui, effectivement, est sorti de l'OTAN. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait une base militaire à Châteauroux. Et puis, du jour au lendemain, ils sont tous partis. Ouais. Bon, le général de Gaulle, il a décidé qu'on ait une force de dissuasion nucléaire. Bon, on n'a pas les moyens d'assurer une armée traditionnelle. C'est absolument impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est assurer notre dissuasion, c'est-à-dire de dire aux autres, on a les moyens de vous punir si vous nous attaquez. Et en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit les Russes qui soient les plus susceptibles de nous attaquer un jour. Mais enfin bon, passons. Et je veux dire, le parapluie de l'OTAN pour l'instant, il se résume à obliger tous les pays en dehors de la France à acheter des armes américaines. Regardez ce qui s'est passé pour les avions. Tous les pays de l'OTAN, n'est-ce pas, tous les pays européens se sont détournés de la fabrication française. Il n'y en a pas un seul qui a acheté des Rafales. Ils ont tous acheté des avions américains. En fait, l'OTAN, c'est un moyen pour l'Amérique de faire fructifier le complexe militaro-industriel américain. Et ça marche très, très bien. Donc, je vois pas, pour l'instant, je vois absolument aucun intérêt à rester dans ce truc qui ne sert que les intérêts américains et qui nous projette de rien du tout.
Mathieu Sauce.
Ouais, c'est hyper caricatural. je trouve que c'est fou parce que c'est la première fois en tout cas qu'à ce micro, et pourtant j'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs débats, et à chaque fois qu'on a parlé du conflit russe-ukrainien, on a toujours été plutôt dans le camp des Ukrainiens, et peu importe, j'allais dire, la couleur politique des différents invités. Donc c'est la première fois que je vois à la fois quelqu'un qui défend Trump et Poutine. Donc ça, c'est assez extraordinaire. En tout cas, vous êtes bien dans la lignée. Le prochain, c'est Orban à défendre. Et le prochain, c'est d'autres dictateurs de ce bas monde ou des gens qui ont obtenu le pouvoir, certes, par la démocratie,
mais
qui, à un moment... la façon d'agir peut être dictatoriale. C'est totalement subjectif. Pour une fois, je vais être dans la subjectivité.
Macron n'est pas un dictateur.
Il peut avoir quelques tendances, en effet, à ne pas respecter la démocratie lorsque le NFP arrive en tête et qu'il nomme un gouvernement Barnier. En effet, il y a des mesures parfois qui peuvent être dans l'ordre du non-respect, en tout cas des us et coutumes d'une démocratie telle que nous l'entendons. Parce qu'en fait, dans ce débat-là, qu'on est en train de vivre plus ou moins, il y a sous-jacent l'idée... Et qui est réel, et c'est plus une peur là pour une fois, c'est de voir des démocraties vaciller, de voir le système démocratique tel que nous le connaissons être mis à mal par des us et coutumes politiques, par des politiques parfois qui le malmènent et qui ne respectent pas la Ve République et parfois d'autres pans, d'autres textes constitutionnels. Le premier amendement, et j'en reviens là-dessus parce que c'était ce qui m'a un peu choqué dans vos propos aussi, et j'ai pas eu le temps de l'exposer tout à l'heure. Le premier amendement américain, moi j'en suis pas un grand fan. Parce que pour moi, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de ne pas dire des choses qui seraient contraires à l'expression collective et à l'intérêt général. Et je trouve que en France, certes, il n'y a pas cette liberté totalement d'expression, parce qu'on condamne à la fois le racisme et l'antisémitisme, et je trouve que c'est des faits qui sont plutôt bien et bons que de réguler un peu dans le contrat social, dans ce vivre ensemble qui tend à disparaître mais qu'on aimerait voir ressusciter. Ça fait partie des axes prioritaires que nous devons faire, c'est-à-dire la liberté d'expression, certes, mais il faut qu'elle soit encadrée. Et cet amendement aux États-Unis a permis, je vous l'ai dit et je me répète, une campagne électorale des plus dégueulasses qu'il puisse y avoir sur la planète. C'était pas un exemple de démocratie, c'était un exemple d'affrontement avec les réseaux actuels, avec les médias, parce que regardez un peu les taux d'écoute des chaînes traditionnelles par rapport aux médias développés sur Internet. C'est peanuts maintenant, c'est tout se fait maintenant sur Internet, etc. Avec des fake news à n'en plus finir, avec des vidéos, avec l'intelligence artificielle future. Et Trump s'est pas trompé. Il a pris avec lui celui qui était l'un des meilleurs dans le domaine, Elon Musk, qui a financé ça. Quand vous arrivez à acheter des votes sur les 15 derniers jours, à faire un jeu de loterie, 1 million à celui qui votait par procuration par tirage au sort pour Trump, il tirait au sort tous les jours. Allez, 1 million d'euros pour toi, 1 million d'euros. Mais c'est pas ça la démocratie. On n'attaque pas 1 million de dollars, pardon. Excusez-moi, j'ai converti. Mais ça n'est pas ça en fait la démocratie. La démocratie, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble dans cette société. C'est le contrat social, c'est une aliénation d'une part de notre liberté pour la sécurité de tous. Et là, je fais l'introduction du sujet futur. Puisque c'est aussi ça, être démocratique, c'est être aussi dans un état qui nous permet de vivre en sécurité.
Avant de venir au sujet futur, je voudrais bien que vous répondiez à ma question sur l'aspect défense.
Ah pardon, excusez-moi.
Mais c'était ça la question.
Non, mais j'ai une vraie crainte là-dessus. Parce que le retrait des Américains de l'OTAN, c'est pas bon en soi. D'abord parce que... Est-ce qu'on a vraiment les capacités financières aujourd'hui en France de nous réarmer et de reconsidérer le budget de l'État?
Quand
on voit la casse sociale qui est en train de se préparer parce qu'il y a eu des mensonges d'État, et là il faudrait, quand j'ai vu l'audition aujourd'hui de l'ancien ministre de l'économie, j'avoue que j'étais dans le désarroi le plus total aujourd'hui, où ils ont sous-estimé notre capacité de rentrer des recettes, mais pas les dépenses. Enfin, quand on voit comment a été gérée la France sous l'ère Macron et qu'on arrive à ce déficit public qui est tellement abyssal que maintenant c'est même plus des efforts qui sont faits, c'est la casse du service public qui est organisée, je crains pour le futur de mon pays. Donc je ne vois pas comment est-ce que dans ce contexte économique-là, on pourra aussi réarmer la France. Par contre, je crois en cette capacité de l'Europe, de pouvoir peut-être tirer les fruits de cette menace américaine qui se fera jour, qu'elle soit économique, elle sera pas militaire, touche du bois quand même, mais elle sera économique à coup sûr. Et la menace russe qui, ici, se satisfait peut-être d'une partie de l'Ukraine, mais peut-être qui ira plus loin dans son délire d'extension de la Russie à l'est de l'Europe. Donc, tout ça me fait penser que s'il n'y a pas une prise de conscience collective européenne sur cette capacité de défense à la fois économique et à la fois militaire de l'Europe, on sera mal en point. Ce qui ne me réjouit pas, moi je vous dis un peu, c'est ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, avec un gouvernement qui est tombé, avec des élections qui je ne sais pas encore, je n'ai pas encore étudié la capacité des Allemands à rebondir, donc je ne sais pas où ça en est. Mais si le couple français-allemand se retrouve dans le désarroi au niveau de sa démocratie, au niveau de sa mise en place de cette politique, c'est tout l'Europe qui va vaciller, et là on en est sûr.
Merci Mathieu, on va en rester là pour ce premier débat. Donc pour l'instant, Donald Trump est bien élu président des États-Unis, mais il ne sera investi, je précise tout de même, officiellement que le 20 janvier prochain. C'est à partir de là seulement qu'on en saura plus sur ses intentions concernant tous les sujets que nous avons évoqués, et en particulier dans le domaine de la politique étrangère américaine. Petite pause et virgule musicale comme d'habitude dans cette émission. On se retrouve tous les quatre ensuite dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie d'Annie Thomas, Franck Bouteau et Mathieu Sauce. On revient maintenant à un sujet bien français qui s'installe malheureusement dans notre pays, la montée de la violence, la rixe entre bandes rivales qui a impliqué des dizaines de jeunes il y a une semaine à Poitiers, faisant plusieurs blessés et un mort par balle, a en effet occupé le devant de l'actualité nationale durant quelques jours. À cette tragique affaire se sont ajoutées la mort tout aussi tragique de Nicolas, âgé de 22 ans en Ardèche, tué par une balle perdue, pourrait-on dire, à la sortie d'une boîte de nuit. Et il y a une autre bagarre à l'arme blanche entre bandes d'adolescents sur le quai du RER en Seine-et-Marne, avec des haches tout de même. On reparle dans Sauvagement de la société française et du poids grandissant des narcotrafics avec leurs guerres de territoire et leurs règlements de compte qui font de plus en plus de victimes collatérales. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a utilisé les termes de narco-racaille et de mexicanisation pour décrire l'ampleur qu'aurait pris ce phénomène. Pour votre part, est-ce que vous considérez aussi que nous sommes à un tournant dans la montée de la violence et le danger que représentent les narcotrafics en France? Ou trouvez-vous plutôt qu'on exagère leur ampleur et leurs conséquences? Franck Bouteau.
Bon, la réponse sera très courte. Là. Je crois que tout le monde sait très bien que année après année, ce genre d'événements se produisent de plus en plus fréquemment. Je dirais que c'était en 2013, je crois, que Oberton avait sorti son livre « La France orange mécanique », qui avait bien sûr suscité la haine de tous les milieux gauchisants. Il a tout de suite été traité, comme je l'étais tout à l'heure, d'extrême droite. Mais le fait est qu'il ne faisait que relater des faits. C'était du factuel pur et dur. Il n'a eu d'ailleurs aucun procès. Tout ce qu'il disait était vrai. Mais ce qu'il disait à l'époque, c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe maintenant. Tous les ans, ça s'aggrave. Et ça, c'est ce que voient tous les Français, pardonnez-moi, je bégaye un peu, ça me paraît tellement évident. Voilà, la réponse c'est oui, bien sûr, ça ne fait que s'aggraver. Ouais, je ne sais pas si ça suffit à votre...
Non, mais là je mettais l'accent sur les narcotrafics quand il parle de mexicanisation. Ah. Le terme renvoie quand même à quelque chose de bien précis. Alors, est-ce que la France aujourd'hui, ça ressemble au Mexique avec les cartels, les réseaux de narcotrafiquants qui défilent même en char parfois dans certaines rues?
Non, il est évident que non. Il est évident que Bruno Retailleau a utilisé le terme mexicanisation pour ne pas avoir à cibler telle ou telle communauté qui actuellement est responsable de ces actes, parce qu'il a peur évidemment d'être accusé de racisme, d'antisémitisme ou de tout ce qu'on veut. Enfin, pas trop d'antisémitisme en l'occurrence, mais au moins de racisme. Et donc forcément, il a employé un terme qui cible sur quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, puisqu'effectivement, ce n'est pas du tout une mexicanisation, ça me paraît évident.
Alors, est-ce que c'est un mouvement vers la mexicanisation? Ça, c'est un autre sujet. Alors, Annie Thomas, comment vous voyez tout ça?
Alors, d'abord dire que je ne suis pas une spécialiste de la drogue, mais j'avais lu dans la semaine un papier qui m'avait beaucoup intéressé, et quand votre question a surgi, je l'ai relu. C'est une analyse qui vient d'un chercheur du CNRS qui s'appelle Sébastien Rocher, qui est politologue et qui travaille à Sciences Po à Grenoble, et qui essaie d'examiner la situation de manière, je dirais, factuelle d'abord, et voir après nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la lutte contre la vente de drogue à ciel ouvert. Il appelle cela, c'est son expression, c'est celle-ci. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous démontre que malgré des nombreuses saisies, les opérations de contrôle, tout ce qui se passe partout, la disponibilité, l'accessibilité ne faiblit pas. Donc, on est dans un processus, en fait, où il n'y a pas d'arrêt par rapport à l'accessibilité, voire même, nous dit-il, cette accessibilité s'étend maintenant aux zones rurales, s'étend aux zones périurbaines. Donc, il y a véritablement, au niveau du territoire, quelque chose qui était réservé avant à certains quartiers ou certaines villes, qui n'est plus le cas. Donc, c'est une réalité. De là à dire que c'est une mexicanisation, non, parce que le Mexique connaît des mouvements très violents autour de ça que nous n'avons pas encore. Mais voilà, on ne sait pas. La deuxième point qu'il met en avant, c'est la question du prix. Donc, lorsqu'il parle de l'accessibilité, évidemment, la question du prix, pour dire que depuis plus de 30 ans, le prix a baissé de manière très forte. Un gramme de cocaïne, il y a 30 ans, coûtait 1200 euros. Aujourd'hui, il est entre 50 et 70 euros le gramme. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse extrêmement forte et que donc, ça signifie que les trafiquants n'appliquent pas une prime de risque et donc ne sont pas suffisamment... arrêter, soyons clairs, sur cet aspect-là. Et il renforce son argumentation en disant que pendant le confinement, l'accès aux drogues était plus difficile, bien évidemment, et le trafic avait baissé de 30 à 40% et le prix avait énormément augmenté. Voilà, donc toutes ces questions-là, pour lui, c'est central. De même, il estime que la France n'a pas suffisamment travaillé sur les questions de statistiques, de lien entre la vente, la violence, et en particulier les chiffres d'homicide, de manière à savoir qui est touché, quand est-ce que tu es touché, où est-ce qu'on est touché. Donc il estime qu'avant d'avoir de grands discours de ce type, on ferait mieux d'avoir une vraie politique publique de connaissance du phénomène. Deuxièmement, il indique que c'est politique de redondante en permanence. Par exemple, Marseille en grand. Vous avez peut-être vu que la Cour des comptes vient de sortir un rapport qui indique que l'opération montée par le président Macron sur Marseille en grand, qui veut contrôler le trafic, montre, la Cour des comptes elle-même donne des limites à cette politique, estime qu'elle n'est pas bonne. Elle est même contre-productive pour lui, puisque on enlève un coin de deal, et le lendemain, il revient. Et ça augmente même la violence. On l'a vu dans les cas que vous avez cités. C'était des cas de deal, de coin de deal qui avaient été enlevés et qui se reconstituent. Et la violence est encore plus forte. Et alors, pardonnez-moi, mais je vais revenir au sujet précédent. Il présente des nouvelles approches, en particulier aux États-Unis. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on voit que les États-Unis ont de gros problèmes d'addiction extrêmement importants.
Par exemple, comme San Francisco, voilà. C'est une véritable catastrophe.
Absolument, une catastrophe.
Qui a d'ailleurs pesé dans le vote.
Certainement. Et donc, il cite davantage l'exemple de Boston, où il dit qu'une politique de lutte, c'est d'abord une politique de coordination des agences publiques, beaucoup d'agences aux États-Unis, mais aussi des forces de l'ordre, bien évidemment, qu'il faut organiser un ciblage sur les types de marchés. Qu'il faut concentrer l'action pénale sur les chefs et les plus violents, les autres, qui sont les petites mêmes, on doit leur dire, en présence de leur famille, en présence de leur communauté, qu'ils sont repérés, qu'on sait qui ils sont, et qu'on leur propose d'abandonner cela. Mais évidemment, derrière, il y a un programme social, parce qu'on ne va pas éradiquer l'addiction, ça existe depuis le début des temps, mais par contre, on peut limiter tout ça. Et je finis sur un poème qui me semble, moi personnellement, très important. C'est qu'on parle beaucoup des dealers, on parle beaucoup des trafiquants, on ne parle pas des consommateurs.
Vous poser
pardonnez-moi
la question.
C'est un marché, le marché de la drogue. Okay. Il y a un producteur et il y a un consommateur. Quand on étudie un marché en économie, on étudie les deux aspects, sauf dans la drogue. C'est quand même incroyable. Donc moi, j'en appelle à ce qu'on étudie vraiment et qu'on pénalise les consommateurs,
pour tuer la demande.
Que eux aussi, on applique le système bostonien, qu'on leur fasse savoir qu'on les connaît, que leur famille est informée et qu'ils ont intérêt à arrêter, sinon ça ira plus loin.
Je suis sûr qu'en France, les dealers, les têtes de trafic, tout ça sont connus aussi. Hein. Mathieu Sauce.
Oui, je regardais en même temps que Mme Thomas parlait, je regardais simplement qu'aujourd'hui, hein, il y a une proposition de loi qui est déposée au sein du Sénat, du Sénat qui aboutira sûrement à une proposition de loi qui est signé par Jérôme Durin, sénateur PS, et co-signé aussi par Étienne Blanc, DLR. Je crois que la prise de conscience du politique sur ce qui se passe au niveau du narcotrafic, je ne suis pas, moi, pour la démagogie à l'état brut et inventer des noms alors que certains mots existent. Et on comprend ce qu'il y a derrière.
Narco-racaille, pour vous, c'est des formules.
Pour moi, c'est de la sémantique, c'est des formules, c'est de la communication, c'est à l'instar...
C'est pas le reflet de la réalité,
c'est
pour
pas
vous.
C'est le reflet d'une forme de réalité, si on entend derrière, mais qu'est-ce qu'on entend derrière? Moi, je crois que le narcotrafic suffit comme terme pour mettre un mot derrière un phénomène, et un phénomène, par contre, qui est réel.
Et
autant il ne faut pas avoir de tabou en matière de sécurité publique, parce que les premiers qui sont touchés par ces narcotrafics sont souvent les plus précaires d'entre nous. Et donc il ne faut pas avoir de tabou. Pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie. Il faut être toujours dans le juste et dans ce qui se produit. Le narcotrafic, il ne faut pas s'y attaquer qu'en bas des tours d'immeubles auprès des petits vendeurs. Il faut aussi s'attaquer au blanchiment d'argent international, il faut s'attaquer au transfert d'argent, il faut s'attaquer à qui le col blanc est au bout de la chaîne. Et ça, c'est plus compliqué, c'est déjà plus délicat. Parce que la vérité, c'est que dans les années futures, si on ne s'y attaque pas, à l'échelle même européenne, pour une fois, on va reciter l'Europe, mais au moins, en tout cas, à l'échelle nationale, si on ne s'y attaque pas, c'est que des narco-États vont exister dans cette sphère du monde un peu compliquée.
C'est là qu'on va vers la mexicanisation, dans ce cas-là.
Et c'est un peu le cas. Mais en tout cas, pas à l'échelle européenne en tout cas. Il n'y a pas encore d'État européen où la culture du cannabis est une source de revenus et la culture de la coca aussi. Ça vient plutôt de l'autre côté de l'outre-Atlantique où il y a des...
Ou même de l'autre côté de la Méditerranée.
Ou de l'autre côté de la Méditerranée.
Le sujet n'a pas été évoqué lors du déplacement d'Emmanuel Macron au Maroc, comme par hasard.
Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais par contre, il y a des solutions. Et à l'instar de ce qu'il y avait, par exemple, pour lutter contre le terrorisme. On avait cette image du procureur de la République, c'était Mougin, je crois,
Moulin. François
Moulins. Mais il y avait cette figure qui, lorsqu'elle parlait à la télé, faisait et surtout arrivait à j'allais dire, faire en sorte que tous les services de protection de l'État fonctionnent ensemble. Donc il faut retrouver ce monsieur
ou madame,
lutte anti...
narcotrafique.
Pardon, loin de moi cette...
oui, on l'avait compris, vous
voilà.
Inquiétez pas.
Trouver en fait cette figure qui permettrait de lutter contre le narcotrafic. Il faut qu'il y ait un parquet national qui soit dédié en la matière. Il faut qu'il y ait une sorte de DEA à la française, une sorte de police qui pourrait ici avoir les informations de la police locale, voire municipale, sur le commencement d'un trafic, mais aussi avoir celui du parquet financier sur certains transitions d'argent, sur du blanchiment. Et il faudrait donc qu'il y ait cette police dédiée à la lutte contre le narcotrafic. C'est évident, avec des moyens nécessaires. Mais on retombe toujours sur le même schéma. Il nous faut des moyens.
Alors les moyens en question, qu'est-ce que ça peut être? Il y a Carl Olive, le député Renaissance, lui dit il faut envoyer l'armée dans les quartiers qui sont minés par les narcotrafics. Idée qui avait été lancée par votre consoeur du PS, Samy Agali, il y a quelques années à Marseille.
Oui, mais c'est pareil, c'est du ponctuel ça.
C'est
à peu près pareil que les effets de manche. C'est à peu près pareil que les effets de manche d'un ministre de l'Intérieur qui se déplace sur le terrain au moment où le drame a eu lieu et qui pendant un mois met des CRS en bas des tours
pour casser
le truc. D'abord, le rôle de l'armée, c'est pas forcément
celui-là. C'est plutôt à l'extérieur.
Si c'est en interne, c'est qu'il y a une guerre civile qui s'établit et c'est quand même pas souhaitable. Et par ailleurs, je crois qu'il n'y a pas le mécanisme pour lutter réellement contre le narcotrafic. La présence militaire, elle peut éventuellement ici et là empêcher un attentat, on l'a vu plan Vigipirate, mais de là à lutter contre le trafic, pour ainsi dire, c'est pas leur métier, c'est pas le corps de métier.
Il y a en France des territoires qui ne sont plus français.
On en revient toujours au nerf de la guerre. Quid des moyens mis à disposition pour lutter contre le narcotrafic? Quid de l'investissement financier qui est fait?
Il faudra des hommes, de toute façon.
Et il faudra, bien sûr, des hommes nécessaires.
La police, hein.
Et on ne fera pas avec le constant.
Il faut aussi des réponses sociales. Ce que nous apprend l'exemple de Boston, pardonnez-moi, c'est des réponses sociales aussi à côté.
Mais je pense que la lutte doit être sur deux jambes.
Et donc, on ne peut pas proposer à des familles...
Répression d'un côté, et aussi de l'autre côté, prévention. C'est un combat de deux jambes.
Hein, ouais.
Parce qu'on revient à ces gens qui, pour X raisons, consomme de la drogue. Elle peut être festive d'un côté pour ceux qui ont découvert ça sous forme de fête. Elle peut être aussi pour pallier un mal-être d'une société qui est en désarroi.
Ce serait de légaliser la vente de cannabis.
C'est un autre débat parce que ça concernerait que les drogues dites douces.
Oui, mais c'est pour certains, mais pourquoi pas. Il faut passer par là.
Il faudrait peut-être relancer en tout cas ce débat-là pour avoir le choc qui casserait d'un instant. Il faudrait voir aussi, alors avec le recul nécessaire, et on en revient avec la transition avec les États-Unis, j'ai eu l'occasion, moi, dans ma vie, de voyager un petit peu aux États-Unis au moment, à 3 mois, en fait, de la légalisation du hashish en Californie. Je n'ai pas les retours de ce qui s'est passé là-bas. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des cartels, entre guillemets, qui vendaient ça, qui se mettaient à ouvrir maintenant des shops. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça procure ou pas derrière. Je ne sais pas. Il faut regarder et il faut avoir l'honnêteté de regarder, mais avec, j'allais dire, un regard sans tabou, sans démagogie pour autant, mais au toujours avoir cette double fonction, répression d'un côté, et il faut être très ferme sur la répression. Il y en a marre, c'est pas normal que des jeunes meurent, de plus en plus jeunes en plus,
qui sont pris dans des conflits,
dans des immeubles, voire dans des centres-villes,
tués
parce que liés plus ou moins au trafic de drogue, et de l'autre côté avoir aussi cette prévention en amont, cette possibilité donc simplement sur la légalisation, et je conclurai là-dessus, il y a cette capacité aussi peut-être d'avoir un référent vendeur qui est aussi dans un processus de possibilité donnée aux consommateurs de sortir de cette consommation dont il dépend en réalité, c'est possible, enfin pour des questions de santé publique.
Franck Bouton, je vous donne le mot de la fin. Vous, qu'est-ce qu'il y aurait comme solution face à cette situation qui dérive de toute façon?
Là, j'ai entendu énormément de bons sentiments, énormément de propositions intelligentes, une attitude effectivement raisonnable quand il s'agit de dire qu'il faudrait aussi s'occuper des consommateurs. D'ailleurs, il y a un député LFI qui a été pris récemment en flagrant délit de consommer de la drogue. Ça serait bien de commencer par lui. Je pense que quand même, là, il y a quelque chose qui manque dans votre réflexion et qui manque gravement. C'est que d'où viennent les gens qui font ces trafics? D'où viennent les gens qui font ces trafics? Est-ce qu'il s'agit de Français de souche, les fameux souchiens, ou est-ce qu'il ne s'agit pas majoritairement Oui, vous savez ce que c'est, puisque c'est une injure que... Est-ce qu'il ne s'agit pas majoritairement de gens qui sont des étrangers? Et moi, j'ai regardé les coupures de presse que vous m'avez fait passer. Si vous voulez, dans tous les responsables de crimes, de délits, etc., qui sont appréhendés, c'est des jeunes. Alors on dit c'est des jeunes, ils ont entre 15 et 25 ans, on ne dit pas les noms, on ne dit pas les prénoms, on ne dit pas d'où ils viennent. Il y en a juste un qui a été appréhendé dans les quartiers nord de Marseille, on voit à peu près de quelle communauté il vient, et cela dit, pas un mot dans les médias sur l'origine géographique de ces gens-là. Donc tant qu'on n'aura pas fait un diagnostic précis...
Le
podcast est disponible dès ce soir sur le site de Radio Présence. Rendez-vous maintenant jeudi prochain. À bientôt.